Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Notre rendez-vous avec Laurent Gérard est pris dans quelques minutes, mais à 8h40, comme tous les matins, la revue de presse, Amandine Bégaud, et à la une ce matin, Amandine, des hommes qui s'engagent.
Avec d'abord Antoine Griezmann, le footballeur fait la une du magazine Têtu, le nouveau numéro sort demain, une gueule d'ange, et ses mots, l'homophobie dans le foot, ça suffit. Le footballeur appelle les joueurs, les supporters, mais aussi toute la société à évoluer, et il l'assure, hein, désormais, si un joueur tient des propos homophobes sur le terrain, eh bien il n'hésitera pas à arrêter le match. Vu le climat, dit-il, je peux comprendre qu'un joueur évite de dire qu'il est gay, mais personne, conclut-il, ne devrait jamais avoir honte de ce qu'il est. Cette interview, Grisou l'a tout de suite acceptée, et c'est d'ailleurs le seul, explique le magazine. Têtu raconte en effet avoir sollicité plusieurs joueurs de l'équipe de France pour s'engager contre l'homophobie, entre les fins non recevoir et les réponses gênées. Antoine Griezmann est le seul à avoir répondu présent, preuve s'il en fallait une de plus, que le foot, sans doute plus encore que d'autres sports, reste hostile aux homosexuels. Hier, le Parisien Aujourd'hui en France notait que la consigne lancée par la LFP, à savoir porter un brassard arc-en-ciel à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie, n'avait pas été respectée par tous les capitaines des équipes de Ligue 1, loin de là même.
Emmanuel Macron, lui aussi, s'engage ce matin.
Une grande interview à la presse régionale, c'est d'ailleurs la une de presque tous vos journaux hein, ce matin, presque, car deux d'entre eux ont décidé de boycotter l'événement, le Télégramme et la Voix du Nord. Patrick Jankielewicz s'en explique d'ailleurs dans les colonnes du quotidien. Hein, 9 journalistes de grands titres régionaux, dont la Voix du Nord, explique-t-il, avaient été conviés. Une interview d'1h30, encadrée de façon inédite, écrit le rédacteur en chef du journal, puisque les participants devaient s'engager à coécrire sur place une version unique des réponses présidentielles, puis à la soumettre à la relecture de l'Élysée avant toute publication du texte. Le texte d'ailleurs que vous retrouverez est partout le même, hein. J'ai vérifié mot à mot. La PQR poursuit-il ses 18 millions de lecteurs, une soixantaine de titres et autant de lignes éditoriales. À la Voix du Nord, par exemple, depuis le 15 janvier 2018, nous n'acceptons plus la relecture des interviews avant parution. C'est notre décision, dit-il. Nous respectons ceux qui font le choix inverse. Et d'ajouter, il y a aussi une autre préoccupation qui nous habite, l'équilibre du traitement politique d'une campagne électorale. En s'invitant à 5 jours du scrutin, il nous a semblé, conclut-il, qu'Emmanuel Macron rompait cet équilibre essentiel. Position que ne partage pas Pascal Jalabert, le rédacteur en chef du groupe Ebra, qui lui a choisi de publier cette interview. Vous la retrouverez dans le Progrès, l'Est républicain ou encore le Dauphiné libéré. Et il s'en est expliqué ce matin sur RTL.
Cette interview a été relue comme le trois quarts des interviews politiques aujourd'hui. Il y a eu à peu près 4 changements de propos qui sont des changements techniques, des détails sur des chiffres de 3,5 à 3,8, mais c'est vraiment des détails. Non, il n'y a eu aucun changement sur le fond. Quant à l'équilibre, franchement, je crois que les Français se posent des questions sur l'engagement du président. Et puis c'est inédit, ou presque, Nicolas Sarkozy s'était engagé il y a 10 ans, mais là, de voir un président devenir chef de file, je pense qu'en soi c'était une information, donc je crois qu'il fallait expliquer cela à nos lecteurs.
Pascal Jalabert, ce matin sur RTL, le rédacteur en chef du groupe Ebra. Pas de trace, je vous le disais non plus, hein, de cette interview ce matin dans le Télégramme. Le journal fait sa une sur l'affaire Vincent Lambert. L'enjeu d'une vie, titre le journal. L'ancien député Jean Leonetti, auteur de la loi hein, sur la fin de vie, appelle chacun à écrire ses directives anticipées pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Dans ce contexte, je vous conseille ce matin de lire ce témoignage que publie le journal L'Alsace, celui d'Audrey, 62 ans, qui depuis la mort de sa sœur il y a quelques semaines à Colmar, s'en veut de ne pas avoir réussi à faire respecter son souhait, à savoir ne pas subir d'acharnement thérapeutique. Martine, pourtant, en avait parlé à son médecin dans un précédent service. Audrey était là, elle se souvient. Sa sœur avait été très crue, raconte-t-elle. « Si je deviens un légume, avait-elle lancé, je veux que vous m'acheviez ». Mais rien n'avait été écrit. Et quelques mois plus tard, suite à une infection, Martine est transportée dans un autre service. Son état se dégrade très vite. On dit à sa sœur qu'elle n'en a plus que pour quelques jours. Et puis l'état de Martine s'améliore. On nous a, raconte Audrey, affirmé qu'elle répondait aux questions par oui et par non, ce que nous n'avons jamais constaté. Audrey, en revanche, voit sa sœur dépérir. Elle avait perdu 40 kilos. Elle était recroquevillée sur elle-même. L'image, la honte. Elle regrette que personne n'ait eu le droit de donner un coup de pouce. Certains, conclut-elle, disent que c'est à Dieu seul de décider. Moi pas. Je pense ça encore moins aujourd'hui. La mort lente, conclut-elle, est-ce humain ? L'idée, en vous proposant ce témoignage, hein, ce n'est pas de vous convaincre. Tous les avis, toutes les positions sont défendables. Mais ce témoignage, comme d'autres, nous aide à réfléchir. Et ça aussi, c'est s'engager.
Amandine Bégaud.